Merci d'écouter RFI, il est 8h30 à Brazzaville et Paris, 10h30 à Kampala. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Arthur Ponchelet.
Et à la une, tractation et discussion en coulisses au sein de l'Union sacrée en RDC. Les positions divergent dans la coalition sur le projet de révision ou de changement de la Constitution. Plusieurs partis n'ont toujours pas donné leur position officielle. Ces rumeurs sont fausses, communiqué hier de l'ambassade des États-Unis au Gabon, qui dément avoir accordé l'asile à Hervé Patrick Opianga. L'ancien ministre des Mines est introuvable depuis le 20 novembre dernier, date à laquelle il n'a pas répondu à une convocation de la police judiciaire. Le Conseil constitutionnel a dévoilé hier la liste définitive des candidats aux législatives du 29 décembre prochain au Tchad et confirme l'inéligibilité de Mahamat Zenbada. Au sommaire également, on évoquera cette polémique à Madagascar autour du projet de loi de finances pour l'an prochain. Et puis direction la Centrafrique à la fin de ce journal, reportage auprès d'une association qui s'est lancé un pari fou, transformer des déchets plastiques en pavé. Le débat fait rage en RDC. Faut-il réviser ou changer la Constitution? L'UDPS, le parti présidentiel, et certains de ses alliés penchent pour un changement, mais certains des poids lourds de l'Union sacrée, la plateforme dirigée par le président Tshisekedi, n'ont toujours pas donné leur position. Alors comment expliquer ce silence? La majorité des cadres influents de la coalition assurent ne pas avoir été consultés au préalable sur cette question. Patient Ligoni.
C'est une affaire sensible, un terrain glissant qui pourrait emporter certains, confie sous couvert d'anonymat un baron de la coalition. Si révision, quels articles seraient concernés? Si changement, pourquoi et comment procéder? Félix Tshisekedi va-t-il briguer un autre mandat? Autant de questions qui suscitent des inquiétudes. Nombre d'entre eux redoutent ce qu'ils qualifient de suicide politique et appellent à des concertations au plus haut niveau de l'Union sacrée avant toute communication à leur base. Du côté de l'UNC de Vital Kamerhe, qui reste un acteur clé de l'Union sacrée, la prudence est mise. Certains cadres reconnaissent l'existence des discussions internes sur le sujet, mais aucune ligne claire ne semble encore définie. Quant au MLC de Jean-Pierre Bemba, une réunion s'est tenue hier lundi. Selon nos informations, aucune décision n'en est ressortie pour l'instant. Jean-Pierre Bemba a demandé aux membres de son parti d'approfondir la réflexion et de soumettre des propositions. Par ailleurs, des discussions informelles entre certains cadres de l'Union sacrée devraient se poursuivre lors de la conférence des gouverneurs prévue dans la ville d'Ekalemi du 27 au 29 novembre. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Bientôt une semaine que l'on est sans nouvelles d'Hervé Patrick Opianga au Gabon. L'ancien ministre des Mines est introuvable depuis le 20 novembre dernier, date à laquelle il a reçu une convocation de la police judiciaire, convocation restée sans réponse. Hier, une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux affirmait qu'il avait trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis à Libreville. Information démentie ensuite par l'ambassade. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Nous affirmons sans équivoque que ces rumeurs sont fausses, a martelé l'ambassade des États-Unis au Gabon dans un communiqué. L'affaire Opianga a éclaté le 20 novembre lorsque ce dernier a reçu une convocation de la police judiciaire. Il n'y est pas présenté et aurait même ignoré une seconde plainte déposée à son domicile vendredi dernier. Il est désormais introuvable. Ses avocats disent ne pas savoir où il se trouve et les raisons de sa convocation. Selon Gabon Premier, la télévision nationale, l'ordre d'interpeller Hervé Patrick Opianga émane du procureur de la République à la suite d'une plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. Une plainte déposée par son beau-père qui l'accuse d'avoir abusé une mineure, notamment la fille de son épouse. Les proches de Hervé Patrick Opianga dénoncent de leur côté un harcèlement politique. L'ancien ministre a battu campagne pour le non lors du récent référendum constitutionnel. C'est bien une affaire des mœurs, a insisté la télévision nationale. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Inéligibilité confirmée pour Mahamat Zenbada au Tchad. Le Conseil constitutionnel a dévoilé hier la liste définitive des candidats aux législatives du 29 décembre prochain. Élection boycottée par une large partie de l'opposition. Le secrétaire général du MPS, le parti de l'ancien président Déby, ne pourra donc pas y participer. Carole Valade.
Le Conseil constitutionnel confirme la décision de l'agence électorale d'écarter la candidature de Mahamat Zenbada. Le secrétaire général du MPS, condamné en dernière instance pour détournement de fonds publics, n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. De plus, Mohamed Zenbada affirme être à la retraite depuis mars 2023, alors qu'il a été promu au grade de contrôleur général de police 6 mois plus tard. Le conseil estime qu'il a dissimulé sa condamnation, qu'il s'est inscrit frauduleusement sur les listes électorales et décide donc de transmettre son dossier au procureur de la République. Il en va de même pour Mohamed Boukhari et Salomon Gaïdro. Le conseil rétablit en revanche les candidatures de Mariam Djimé Ibet, emprisonnée à plusieurs reprises pour détournement de deniers publics, mais de manière préventive et qui a bénéficié d'un non-lieu et d'une relaxe, ainsi que Wang Launa Fula, qui lui non plus n'a pas été condamné de façon définitive. Carole Valade, Djamena. RFI.
Elle doit permettre de sortir de la crise. Une réunion déterminante doit se tenir aujourd'hui au Mozambique. Rencontre entre le président Felipe Nyusi et les 4 candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre. Les 3 représentants de l'opposition réclament l'annulation du scrutin qu'ils jugent irrégulier. Pendant ce temps, la contestation électorale se poursuit dans le pays à l'appel de Venancio Mondlane, le candidat d'opposition déclaré deuxième par la commission électorale. Les victimes de viols et de violences fondées sur le genre n'ont pas un accès suffisant à la justice sur le continent. C'est le constat amer que dresse l'ONG de défense de droits des femmes Equality Now. Dans leur rapport de 42 pages publié aujourd'hui, les juristes de l'association ont relevé de nombreuses lacunes dans les différents textes de près de 45 pays africains. Du Sénégal à l'Afrique du Sud en passant par le Congo, les victimes obtiennent rarement réparation, voire n'osent même pas se rendre devant les tribunaux. Paul Lorgerie.
Selon l'ONU Femmes, près de 33% des femmes africaines âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles de la part d'un partenaire intime. Une donnée bien en deçà de la réalité, insinue Equality Now. Les contraintes culturelles doublées de l'ostracisme auquel elles s'exposent, les décourageant souvent pour porter plainte devant les juridictions compétentes lorsqu'elles sont compétentes. Le rapport relève que toutes les formes de violences sexuelles ne sont pas reconnues par les codes pénaux des différents pays et que les peines prononcées ne sont parfois pas proportionnelles au mal engendré. L'ONG prend exemple sur la Guinée équatoriale qui, dans son code criminel, indique, je cite, que le viol de toute femme devrait être puni d'un emprisonnement mineur. Autre question sensible, celle du mariage. Lorsque l'on sait que les violences sont en majorité commises dans le cadre familial, il arrive que les peines soient plus légères lorsqu'il s'agit d'un mari violent. Et quand bien même ces cas seraient portés devant un tribunal, certains codes criminels exigent de la victime un certificat médical afin de porter plainte dans des régions où l'accès aux soins est parfois difficile.
Il est 7h38 en temps universel, 10h38 à Antananarive, à Madagascar. Quelques voix de l'opposition et de la société civile s'élèvent contre le projet de loi de finances pour l'an prochain. Il a été dévoilé la semaine dernière. Investissement à la hausse, notamment dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure, mais le soutien à la santé et à l'éducation, pourtant l'une des priorités du président Ange Radzoel pour son second mandat, s'avère bien plus timide. Correspondance à Tana de Pauline.
Les investissements financés sur fonds propres de l'État doivent quasiment doubler, atteignant cette année les 2368 milliards d'ariars. Le secteur de l'énergie capte à lui seul près du quart de ce montant en ressources internes. Si les uns reconnaissent des investissements vitaux pour le pays, Oni Rader, la secrétaire générale du collectif des citoyens et des organisations citoyennes, regrette une allocation disproportionnée.
On a une très faible prise en compte de l'éducation. C'est pareil pour la santé. Aujourd'hui, l'augmentation est principalement portée par les bailleurs de fonds. Parce que si on regarde la variation des investissements internes, on constate qu'elle est négative au niveau de la santé.
611 milliards d'arrières financés, là encore entièrement sur fonds propres pour la construction de la première autoroute du pays. Ce projet, cher au président Ange Radzoel, est déjà contesté d'un point de vue environnemental. Yafku Ramanitcharive, responsable communication du parti d'opposition MMM, y voit un décalage avec les besoins réels de la population.
On alloue 611 milliards d'arrières à l'autoroute et on alloue seulement 150 milliards d'arrières pour l'entretien et la construction des routes nationales. Or, entre choisir entre l'autoroute et la construction des routes nationales, je pense que le choix est vite fait.
Pour supporter ces grands investissements, l'État affiche par ailleurs sa sobriété en réduisant de 10% les dépenses allouées à son fonctionnement. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
RFI.
La pollution, plastique, toujours au cœur des discussions en ce moment à Busan, en Corée du Sud. Plusieurs pays tentent de rédiger un traité mondial pour lutter contre ce fléau. À travers le monde, on cherche à se débarrasser de ces déchets plastiques. Exemple ce matin, en Centrafrique, l'association Vision Plus, au village de Gbaloko, au nord-ouest de Bangui, fabrique des pavés à base de ces déchets. Reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Armés de malaxeurs, de gants, de bottes et de cache-nez, les ouvriers déversent les déchets plastiques dans une cuve chauffée à 100 degrés, alimentée par un feu de bois. Avec un geste appliqué et répétitif, Élisée Bangavoulou, fondateur de cette association, présente les différents types de déchets recyclés.
On utilise les déchets plastiques de façon générale. Donc on prend les sachets d'eau, les bouteilles en plastique, les bidons, les chaises plastiques. C'est ça que nous utilisons pour la fabrication des pavés.
Le processus de fabrication est peu coûteux et comprend plusieurs étapes selon Aimé Josselin, fabricant de pavés.
Pour fabriquer les pavés, on démarre toujours par la fonte des déchets qui dure environ 45 minutes. Ensuite, on les passe au moulage pour obtenir des pâtes que nous mettons dans un moule. Et après 15 minutes, on utilise le sable pour nous permettre de démouler et d'obtenir des pavés solides.
L'engagement de l'ONG Vision Plus à réduire la pollution plastique à Bangui porte aujourd'hui des fruits.
Les déchets plastiques ne se détériorent pas, ils approuvissent aussi le sol. On se dit qu'on a trop de salubrité de l'environnement. L'utilisation des déchets permet de faire l'assainissement de nos marchés, de nos quartiers. Et en final, nous avons un produit qu'on peut utiliser dans la construction.
Une fois produit, ces pavés sont vendus sur les marchés de la capitale. L'ONG Vision Plus compte ouvrir des succursales dans chaque région du pays pour contribuer à la protection de l'environnement. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Bangui, où il est 8h, passé de 41 minutes, la pollution plastique. On en parle aussi dans Appel sur l'actualité ce matin. Comment sortir de la dépendance plastique sur le continent? Nathalie Amar attend vos témoignages. Rendez-vous à partir de 8h, temps universel. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, RFI Matin, suite et fin, c'est avec Andréane Mellard.